Bonjour et bienvenue dans les pages d'histoire de Pierre Mazet. Nous allons évoquer l'incroyable destin de Clarisse Manzon. Je suis célèbre depuis Gibraltar jusqu'à Archangel. Ainsi parlait Clarisse Manzon en mars 1818. Dans les lettres qu'il écrivait de Saint-Pétersbourg, le comte de Noailles, ambassadeur de France, se plaignait qu'on ne lui parlât que de Madame Manzon et de la Fonte des Neiges. Pourtant, elle n'avait pas tenu salon comme Madame Récamier, ou connu le succès littéraire comme Madame de Staël. Elle aurait pu couler une vie paisible de bourgeoise de province si personne n'avait eu l'idée saugrenue, au soir du 19 mars 1817, de trucider Maître Fualdès dans la tranquille bourgade de Rodez. Clarisse Enjolras, épouse Manzon, voit le jour à Rodez en 1785. Son enfance se déroule dans une atmosphère d'angoisse et d'incertitude. Une partie de sa famille, qui appartenait à la noblesse de robe d'Ancien Régime, fait connaissance avec les cachots de la République. Elle grandit, solitaire et libre, dans le sombre château du Perrier. Son appétit pour le romantisme et la liberté naît sans doute de cette éducation qui n'aurait pas déplu à Jean-Jacques Rousseau. Pour tenter d'apprivoiser cet oiseau sauvage, ses parents croient bon de la marier avec un homme de bien, un officier nommé Marc-Antoine Manzon, de 12 ans son aîné. Un brave monsieur qui consent, pour combler les envies de romantisme de sa dulcinée, à jouer les Roméo sous les murailles du château du Pierrier. Cependant, l'âge et les douleurs venant, il se lassa du jeu et le ménage prit l'eau. De guerre lasse, il accepta la séparation et en août 1816, Clarisse Manzon s'installait avec son fils à Rodez, ville dans laquelle son père était président de la cour prévôtale. Rodez se prête mal au roman dont l'âme de Clarisse est friande. Les descriptions qu'en font les rares voyageurs qui la traversent ne la rendent guère attrayante. De plus, deux malédictions pèsent sur la ville. L'ennui et la médisance. L'ennui fut, pour Clarisse, de courte durée. Les distractions ruthénoises étaient rares. Mais la ville abritait une garnison de jeunes et beaux officiers. Le lieutenant Clémendeau, coqueluche des jeunes ruthénoises, vint rapidement combler l'ennui dont souffrait Clarisse. L'aventure n'aurait pu être qu'une charmante bleuette si Rodez n'avait été bouleversée par la sinistre découverte du 20 mars 1817. Ce matin-là, on découvrit le cadavre d'un homme ligoté qui tournoyait à la surface de l'Aveyron. Une entaille béante à la gorge montrait sans équivoque qu'il avait été assassiné. On ne tarda pas à l'identifier, puisqu'il s'agissait d'un notable bien connu de la région, Maître Fualdès, ancien procureur impérial. Antoine Bernardin Fualdès est né le 10 juin 1761. C'est un personnage important, un notable. Il a fait tout d'abord carrière comme avocat. Sous la Révolution, il a occupé de hautes fonctions. Et enfin, il a été procureur près de la cour d'assises de Rodez. Il occupe cette fonction jusqu'en décembre 1816. De ce riche passé révolutionnaire, il a conservé un attachement aux idéaux de la République et de l'Empire. Il a le profil parfait d'une victime de la Terreur blanche. C'est précisément ce que veut éviter le pouvoir politique. À la vitesse du son, la nouvelle se propagea dans la ville. Personne n'avait vu le cadavre, mais chacun avait son mot à dire. Très vite, les témoignages affluent. D'ordinaire, les rues de Rodez se vident avec le crépuscule, mais dans cette soirée du 19 mars, la moitié des habitants semblait avoir été témoin de quelque chose. Les soupçons se portent rapidement sur la maison bancale. Non qu'elle ne ressemble à la tour de Pise, mais parce que c'est une sorte de taudis dans lequel se côtoient hommes et bêtes. Connu comme un haut lieu de la prostitution ruthénoise, elle devint rapidement, selon la rumeur, le lieu de tous les vices. Fort de tous ces témoignages, le juge Telat opéra une perquisition dans la maison bancaire. Pour voir une couverture tachée de sang. Et le juge déduisit que cette couverture avait pu être utilisée pour transporter le corps de Fueldès. Les époux Bancal et leur fille la plus âgée furent jetés en prison aussitôt. Mais l'opinion réclamait d'autres coupables. On interrogea les autres enfants Bancal confiés aux bonnes sœurs. La petite Magdeleine, pressée de questions, intimidée, se mit à parler. Des hommes s'étaient rendus chez elle, entraînant un autre homme qu'on avait tué avec un couteau. Son père le tenait par les pieds. Elle avait en faisant semblant de dormir. Ces révélations avaient suscité à leur tour une autre série de témoignages d'adultes et d'amis des enfants prétendant avoir été mis dans la confidence. Ensuite, on arrêta les autres, ces individus qui faisaient le guet et qui avaient forcément participé à l'assassinat. Furent arrêtés Jean-Baptiste Collard, Joseph Missonnier, Bousquier, Palérin et Batte. La tenancière d'un cabaret, Rose Ferral, les avait désignés. Ils avaient bu chez elle, étaient sortis et rentrés dans le cabaret aux alentours de 8-9 heures. Voilà qui fut suffisamment suspect aux yeux du juge. D'autant que ces hommes, qui vivaient de petits métiers, n'avaient pas bonne réputation. Collard était encore plus suspect que les autres, puisqu'il logeait dans une des chambres de la maison bancale, la partageant avec une certaine Anne Benoît. Maintenant, il fallait trouver un mobile et d'éventuels commanditaires. Charles Bastide Gramont mesurait 1m90. C'est la raison pour laquelle il fut suspecté. En plus, il avait une réputation de séducteur, arrogant et de débauché. Des rumeurs véhiculée par une ancienne servante, circulait à son sujet. Elle concernait un meurtre qu'il aurait commis dans la commune de Prague. De plus, il était souvent mal habillé. Un des dépositions d'honnêtes citoyens, un professeur, un percepteur des contributions, assurait qu'il avait un air coquin. On suppose qu'il devait à Fueldès, son parrain, 10 000 francs et que, sans le sou, il l'avait assassiné pour lui dérober les reconnaissances de dette. Sans preuve établie, le juge Tella, sur ces simples suppositions, qui se révéleront d'ailleurs inexactes, est sur les dénégations vives de Bastille Gramont, qui font office de signe de culpabilité, il l'inculpe malgré un alibi valable. Bastille Gramont concentre sur lui un déferlement de haine, haine des possédants que la justice va considérer comme un élément suffisant. La cour d'assises est dessaisie au profit de la cour prévôtale, dont le juge instructeur est le chevalier de la salle, qui s'empresse de chercher le complice de Bastide en la personne de Joseph Josion, un homme de petite taille, mal aimé, usurier, agent de change et surtout beau-frère de Bastide. Alors que tous ces événements agitaient Rodez, Clarisse s'abandonnait à une passion sans partage. Les promenades sentimentales en compagnie du beau lieutenant se terminaient par des déjeuners chez Madame Constant, la modiste qui abritait les idylles clandestines, tandis que la maison bancale était réservée aux orgies bestiales. Las, le lieutenant était volage. Il commençait à avoir des vues sur Rose Pierrin, la jeune amie du frère de Clarisse. Piqué au vif, et pour détourner son amant de la belle Rose, elle va tomber dans le pire des engrenages. Parmi les innombrables rumeurs qui parcouraient la ville, il y avait celle de la dame en noir, qui aurait été présente dans la maison de banque et aurait donc assisté à la scène du sacrifice. Dans la soirée du 29 juin, Clarisse glissa discrètement à l'oreille du lieutenant quelle était cette fameuse femme voilée, venue retrouver dans la maison bancale un jeune homme de la campagne. Cette confession aurait pu rester secrète si le lieutenant avait été un gentleman ou s'il avait eu l'intelligence de comprendre qu'il s'agissait d'une invention de femme jalouse. Hélas, gentleman il ne l'était point, et son cerveau avait probablement la taille d'un petit pois. Et ainsi commença le calvaire de Clarisse. Aussitôt, le procureur du roi, M. Constant, la convoqua. Elle nia, cette fois-ci, toute implication. Mais toute la ville de Rodez, les magistrats, son père, savait ce qu'elle avait dit, même faussement, et par défi, au lieutenant Clémenceau. Elle ne pouvait plus se rétracter, et malgré ses tentatives pour échapper à l'engrenage des mensonges, elle ne put résister face au chantage qui s'exerçait contre elle si elle ne témoignait pas. Celui de son père en particulier, lui aussi contraint d'aller dans le sens de la thèse du complot fomenté par Bastille Gramont. Clarisse Manzon fut l'objet d'un véritable harcèlement pour relater des faits auxquels elle n'avait pas assisté. Nous sommes au mois d'août 1817. Il faut des coupables pour un crime crapuleux et non pour un crime politique. Il va s'en suivre une suite invraisemblable de procès que nous raconterons dans une prochaine émission. Le fond musical nous a été offert par Alexander Nakarada avec le titre Blood Eagle. Merci à lui.